died. Alors, vous avez déjà entendu parler du point de Capito. Enfin, vous avez peut-être lu ça dans Lacan, puisque c'est un terme qu'il emploie lui. Le point de Capito, c'est une chose dont Lacan parle à propos de la rétroaction de la chaîne du discours. Il en a parlé à propos de la scène, la première scène d'Athalie. Comment on comprend, on peut ne pas comprendre un discours pendant un certain temps. Et le discours s'avance, et on ne sait pas de quoi une question, et puis à un moment donné, il y a un mot qui va produire un effet très proche. Dans la scène d'Athalie, c'est le prêtre qui est en train de sermonner le collaborateur du tyran, qui le pousse vers la trahison. Et le mot qui va produire l'effet préparatif, c'est la colère, la vengeance de Dieu. Bon. Et alors, curieusement, Lacan reprend ce terme de point de Capiton dans sous version du sujet et dialectique. Ben, c'est le début, quand on commence à faire le graphe. Et donc, quand Lacan parle du point de Capiton, il fait un dessin comme ça. Dans subversion du sujet, c'est comme ça. Donc, ce dont je vais vous parler, à un moment donné, va vous faire rencontrer le point de Capiton. On va voir jusqu'où on peut aller ce soir, mais on va rencontrer le point de Capiton et s'apercevoir qu'on ne l'a jamais vu. Parce que Lacan parle de ce point de Capiton aussi dans le séminaire, pas dans le séminaire 3, mais dans le séminaire 5, dans le séminaire des formations de conscience, quand il commence à construire ce graphe. Là aussi, il construit le graphe et il explique qu'il s'agit de deux cercles. Dans l'écrit Subversion du sujet, il appelle la cellule élémentaire du graphe. Il dit qu'il s'agit de deux cercles qui ne peuvent pas se rencontrer, c'est celui du discours et celui du langage. Et que si ces deux cercles qui sont orientés se croisent, voilà, là on peut imaginer que c'est la rétroaction dont on parle dans la scène d'Athalie. Le discours avance, et arrivé à un certain point, il y a un effet de rétroaction qui va donner sa signification au discours. Et dans le séminaire Les formations de la conscience, Lacan nous dit, semblerait, que là, quand il parle de deux cercles qui ne se croisent pas, je vais en orienter un comme ça, comme dans l'autre sens, comme ça, celui-là, comme ça. C'est les trucs qu'on va retrouver dans les nœuds, dans l'étude des nœuds, les orientations, les coloriages et les effets. Parce que ici, Lacan fait remarquer que ça crée un circuit. Alors, ce mot de point de Capiton, moi j'ai tendance à considérer que ça devrait être ça. C'est ce qu'on appelle un point de tangence. Parce que si on regarde ce que c'est qu'un meuble capitonné ou une porte capitonnée ou un mur capitonné, bon, Lacan se moque un peu à cette époque-là des psychiatres qu'il a dans son auditoire avec ce point de capitant, il est à Sainte-Anne et il dit qu'ils ont un peu les oreilles couchées à l'émerie des psychiatres, et que c'est pas étonnant parce que justement ils ont inventé cette histoire des murs capitonnés pour pas entendre les cris quand il y a des fous furieux qui sont un peu bruyants. Hein? Vous savez, aujourd'hui c'est pire encore. Je veux dire que, on continue à croire que la psychose, c'est le grand délire spectaculaire. La plupart des gens qui font de la psychose, les fous hystériques, ou les hystériques fous. Enfin, il n'y a toujours pas de critères. C'est la grande maladie, c'est la grande menace. La seule chose qu'on apprend aujourd'hui de succulents, c'est que Cantor, Turing, Gödel sont psychotiques. La liberté et, il faut l'entendre, il faut le lire pour le croire, la rigueur psychotique. Parce que, déjà, Cantor, il y avait eu certains comme Nathalie Charot ou Éric Porche étaient acharnés un peu là-dessus, et Éric Laurent dans son séminaire également. Alors vous savez que Joyce aussi est devenue psychotique pour tous ces gens, et que maintenant c'est Cantor, mais c'est aussi Turing, le grand Turing, qui est le Socrate des temps modernes, puisqu'on l'a poussé au suicide à manger une pomme. C'est pas la ciguë, c'est le cyanure. Hein, c'est les services secrets anglais qui lui ont proposé deux solutions, ou bien se faire castrer chimiquement, ou bien de se suicider. Il a d'abord accepté la castration chimique, mais il souffrait tellement physiquement qu'il a fini par préférer le suicide. Alors, c'est pour ça qu'il y a une pomme et que la société des ordinateurs s'appelle Apple, vous voyez, parce que il a mangé une pomme dans laquelle il avait fait une injection de cyanure, Turing. Donc c'est Socrate. C'est pas parce qu'il pervertissait la jeunesse d'après ces gens-là, c'est parce que peut-être qu'ils avaient déjà deviné qu'il allait produire la plus grosse fortune de notre époque, c'est-à-dire actuellement c'est Microsoft. Bill Gates, c'est la grande série. C'est grâce à Turing qu'il est Bill Gates. Donc, moi, je tiens que Turing est un génie. Je ne confonds pas du tout le langage avec les machines, ni le langage avec les organismes. Je pense que les organismes vivants n'écrivent pas et ne savent pas lire. Et que nous sommes un organisme vivant qui lisons et qui écrivons, parce que nous sommes prématurés et plus débiles que les autres. On s'est raccroché à ça. Et c'est hétérogène. Ça transforme tout le langage, ça commence à faire des petits tours comme ça, comme dit Freud, autour de la mort. La vie a commencé à tourner autour de la mort. Il y a ce chapitre fameux de Gödel, du principe du plaisir, dont on va parler ce soir. Ça commence à faire des petites tripes, des petits tours, des petites dérives, des petites déviations. La déviation dont il s'agit, c'est ce que Lacan appelle l'instance de la lettre, vous voyez, c'est qu'on fait toujours un alphabet en prenant les restes d'un discours, un alphabet ou un système d'écriture, un caractère d'écriture même. C'est pas du tout représentatif. On prend n'importe quoi comme reste d'un discours. Lacan cite l'exemple de l'alphabet phénicien. Enfin, lisez février en français. Lisez bien, vous verrez ce que c'est que la pulsion. Cette mauvaise traduction du trible. Bon, et bien les. Le trib en question, les organismes, eux, ils ont des cycles qui sont toujours les mêmes. C'est des cycles instinctuels. Parce que nous, on est dans le trib, c'est-à-dire qu'on fait des cycles qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont certainement aucun sens. Et il se trouve que c'est en déconnant comme ça avec des sons, des organes, puis ensuite avec des graphismes, de cette espèce survit en servant de lieu de passage du réel. Le réel qui est quelque chose qui ne peut pas s'écrire, et ben, à force de déconner avec les tribes, avec les petits tours, jusqu'à faire des grands tours. Aujourd'hui, on fait des tours, on va jusqu'à sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars. C'est ça le tribe. C'est ça l'instance de la lettre. Faux. Vous voyez, la lettre volée, c'est Lacan le signale dans son séminaire. C'est pas la lettre volée, c'est la lettre déplacée. Prolongée, ça. Porlois, lettre. Le titre de Faux. C'est Baudelaire qui l'a traduit par la lettre volée. Donc, on demande qu'est-ce que c'est, comment, où ça se trouve, où est-ce qu'on peut lire ça dans Lacan. Ben, vous avez qu'à le lire, c'est, si vous avez ce désir, parce qu'il faut du désir pour lire. Il faut y mettre son désir, et pof, vous voyez que si vous désirez, à propos de tribes, y comprendre quelque chose, autre chose que de la compulsion, de l'expulsion, de l'efflorescence, du bourgeonnement, de l'orgasme, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'on met sous les tribes, tout ça à cause de ces processus affectifs dont nous allons être obligés de reparler également. Il faut revoir tout ça. Il n'y a pas de discours analytique pour cette raison. Et les machines non plus, elles ne font pas de tribes. Hein, le besoin, tous les besoins, toutes les nécessités du corps deviennent pulsions, deviennent déviations, déviées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de déviation sexuelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de normes sexuelles, on ne peut pas dire comment faut faire. On peut dire faites-le, déviez, déconnez, puis, mais soyez un peu présent à ce que vous faites. Donc ne faites pas ça dans la méconnaissance, et puis que ce soit travailler ou aimer, vous avez besoin du langage pour survivre, pour travailler, pour aimer. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire que c'est du déconnage. Moi, je prétends que c'est du déconnage. On dit, Freudisme, il dit aux patients, voilà, venez plusieurs fois par semaine pour déconner. C'est vos affaires à vous. Hein. Ne méconnaissez pas que c'est vous qui déconnez, et on vous invite à déconner un maximum pour voir qu'à un moment donné, on ne peut plus déconner. C'est ça le transfert. Ça s'arrête, la parole. Et là, on peut continuer à déconner avec des choses comme ça. Alors Lacan, vous voyez, il appelle ça point de capiton, mais qu'est-ce que c'est le point de capiton d'après ce qu'il dit dans le séminaire? Ce serait, il dit que c'est ça. C'est ce qu'on retrouve là, dans l'écrit. Vous voyez, celui-là, il tourne comme ça, et celui-là, il tourne comme ça. Bon. Donc moi, j'ai montré dans Étoffe qu'on pouvait mettre ces trois dessins sur la sphère. Et que si on met un des cercles comme ça, celui-là, hein, si on le met comme ça, orienté comme ça, il tourne, et que l'autre, si on le met comme ça, sur la sphère, ça fait un truc comme ça. Il est en dessous. Et puis il va monter pour venir capitonner, c'est-à-dire avoir un point de contact avec l'autre cercle, et puis ensuite il va le traverser. Voilà. Vous voyez, le point de contact se divise en deux. Hein. Le point de capitonnage, il se divise en deux quand il y a une intersection. Bon. Voilà. Et c'est pour ça que Lacan, il fait toutes sortes de trucs, là, ici. Il y a des petits crobards où son graphe au final dans la partie basse, c'est quelque chose qui va se présenter comme ça, donc on retrouvera la même chose en haut. Tout ce qu'il met là, c'est lié au fait que qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce que je vais vous montrer avec ce point de capiton, mais qu'il le cherche, et je suis étonné qu'il ne l'ait pas montré, qu'il a sûrement dû le trouver, parce que vous allez voir, on va s'en servir. Donc, pour construire quelque chose que Lacan a montré, mais il semblerait qu'il n'a jamais fait explicitement pour son public le lien entre ces choses-là. Donc ce point de capiton, moi je vous dis que ça permet de transformer un mouvement, vous voyez, vers le haut d'un cercle qui va monter pour croiser un autre cercle. Ça, c'est un mouvement, c'est diachronique. Et c'est un truc génial pour arriver à écrire ce mouvement diachronique, non seulement dans un diagramme synchronique, et du fait que ce diagramme synchronique est logique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un diagramme de Hervel ou Carol, eh bien, il y a une écriture de boule qui l'accompagne. Donc le mouvement, on pourrait dire topologique, mouvement continu de la topologie, la technique que je vais vous montrer maintenant du point de capiton, derrière cette façon de faire et le fait de nommer ça point de capiton, alors que c'est ça le point de capiton, ça nous permet de lier au mouvement de la topologie. Topologie, ça nous permet de lier ce mouvement à un diagramme logique et à une algèbre et à un calcul, on va dire ça comme ça, hein, une écriture, un calcul algébrique. L'algèbre conclut le calcul. Bon. Donc le point de capiton, qu'est-ce que ça va être pour lier ces trois registres? Et alors, voilà, j'ai fait cet été, grâce à ça, enfin, en découvrant ça, j'ai fait une petite découverte, enfin, pour moi, c'est une grande découverte. J'ai trouvé le type d'écriture algébrique qui permet de lire au travers le diagramme logique la topologie de Lacan dans les graphes, les surfaces et les nœuds. C'est-à-dire que Lacan, il fait du Descartes de la géométrie algébrique, mais l'algèbre qu'il emploie, c'est l'algèbre de Boole. C'est ce qu'a pas compris, qu'a pas capté Badiou dans son article là, dans Conditions, quand il veut corriger Lacan. Il dit que là, il ne peut pas laisser passer, que Lacan lui doit tout, donc il admire ça, mais que là, c'est trop gros, que vraiment, il faut qu'il écrive un article pour bien montrer qu'en plus, il n'est pas dupe de Lacan, qu'il est très détaché, et que donc, quand Lacan se trompe, il se trompe, et on va le corriger. Bon. Sûrement, Lacan se trompe, comme Freud d'ailleurs. Mais en général, Freud, quand il se trompait, plus qu'en général, c'est quelqu'un comme Frege, pour ça que les crétins là, de Borchia-Klopstein aux États-Unis, qui disent que Freud est un escroc malhonnête, qu'il a trompé tout le monde, qu'il a juste la psychanalyse, il n'a jamais guéri personne. Il a tort. Moi, je tiens que la psychanalyse, elle a guéri Freud. Freud, c'est vrai qu'il s'est plaint de guérir personne d'autre que lui. Et il espérait, il a proposé aux autres de en faire autant que lui, mais ils veulent pas. Bon, il s'en plaint auprès de Ferenczi. Il a congelé la psychanalyse dans l'IPA, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que la science de son époque était en retard par rapport à ce qu'il découvrait, justement. Est-ce que Lacan va nous expliquer avec ça? Comment ça marche, Trib? Comment ça marche, les alphabets, le signifiant, les sons? Comment est-ce qu'on peut apprendre à lire? Ça, c'est une petite machine pour apprendre à lire et à écrire. Dans la psychanalyse, on propose à quelqu'un de parler, parce que on suppose que tout le monde s'est à peu près débrouillé à parler plus ou moins. Enfin, vous savez, aujourd'hui, moi je viens d'Argentine, où j'entends les gens là-bas qui parlent un espagnol assez grossier, mais quand je rentre à Paris, puis que j'entends les gens parler, même la radio, la télé, je trouve qu'ils ne parlent pas très... Ils parlent Sarkozy, hein. C'est-à-dire qu'on parle plutôt grossier. Hein. Je crois qu'il faut parler pointu, mais il faudrait quand même parler avec un peu de goût pour le trib. Pas à l'emporte-pièce. Donc Lacan, ça me paraît, comme il le dit très bien, l'inconscient, c'est pas ça, c'est jamais ça. Ou si c'est ça, c'est à la gomme. Vous comprenez l'expression. C'est pas ça, si c'est ça, c'est à la gomme. Jamais aux petits oignons. Ça vous met un peu sur la piste de ce que c'est l'inconscient. L'inconscient, ça marche jamais. Et je trouve que Lacan, c'est aux petits oignons, dans le déconnage, et que Freud, lui, il déconne aussi pas mal, mais que Freud, vous voyez, c'est comme Sartre, il se trompe beaucoup, il a dit lui-même, il a changé de théorie pendant trois fois dans sa vie, c'est très rare, hein. La plupart des gens que vous connaissez, ils font... s'ils arrivent péniblement à faire une thèse à 20 ans ou 25 ans, ils ont un résultat, ils vivent toute leur carrière avec ça, ils vont répéter toute leur vie la même chose, la même chose, ils font jamais rien d'autre. Est-ce que Freud, lui, il a changé trois fois de théorie et trois fois de pratique, hein. C'est ce qu'il dit dans le texte qui s'appelle Remémoration, répétition et perlaboration. Donc, trois fois il a changé. Moi je tiens que Freud c'est comme ça, mais que ça c'est un type qui s'entête dans ses erreurs parce que il est un universitaire. Il a beau avoir un talent de plume certain, très grand talent, hein, dramaturge excellent, mais il est idéologiquement, il faut que Lévy fasse des efforts énormes pour arriver à lui faire entendre que lui est antisémite, par exemple, et que le judaïsme, c'est pas ce qu'il croit. Pourtant, il avait consacré un livre hein, à ça. Vous avez une lecture de la question juive de Sartre par Mechelnik, c'est assez divertissant, hein, la manière dont il lit le texte. Donc Sartre, il se trompe tout le temps, mais il se corrige jamais, tandis que Freud, c'est quelqu'un qui se trompe tout le temps, mais qui se corrige et qui dit qu'il s'est trompé et qui se corrige, reformule, modifie, fait une première copie, en 15, il n'arrive pas à écrire un métapsychologie, c'est un échec, il écrit 4 chapitres ou 5 chapitres sur 12, prévus, et puis dès 1916, il se remet au travail, et puis il nous fait cette seconde copie. En plus, Freud, c'est quelqu'un qui, quand il déconne à plein tuyau, il construit des usines à gaz, mais il revient toujours à une formule. Regardez, 1914, première copie, qu'est-ce qu'il fait? Tout le parcours fait qu'à un moment donné, hop, émerveillement, il répond à Hume à propos de la psychose, mais de la régression, comme ça, de la remémoration. Là, il est sur le chemin de la répétition. Il se rend très bien compte, comme le dit Popper, qui prétend dire qu'il est vérificationniste et qu'il ne se corrige pas. C'est faux. Popper, il vient de nous raconter qu'il y a des rêves d'angoisse. Il n'a pas lu Freud, il n'a pas lu Freud au-delà de la science des rêves. Il ne sait pas que Freud a fait lui-même, s'est réformé lui-même sur la doctrine des rêves, en remarquant au-delà des principes du plaisir. C'est pour ça qu'il a introduit la répétition, qu'il y a des rêves d'angoisse et qu'il y a des rêves qui ne semblent pas être dominés par le principe du plaisir. Popper, il va écrire ça dans les années 30. Il n'a pas lu Freud des années 20. Bon. Je sais bien que les Freudiens qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas faire d'analyse et qui veulent être des conservateurs en chef, ça incite plutôt à devenir dogmatique. En plus, un écrit c'est toujours dogmatisable, ça tend au dogmatisme puisqu'on retrouve le même. Hein. Les mathématiques c'est la discipline la plus dogmatique qui existe. Mais génial, c'est un exercice dogmatique qui s'avoue de lui-même, puisqu'il est. Il est inutilisable si on ne redémontre pas, si on ne recompose pas, si on ne refait pas la mathématique pour son compte. C'est comme la langue, les enfants. C'est pas un crime que de ne pas écouter les consignes culturelles du père, qui veut dire qu'on n'en a rien à foutre, et de déconner pour réinventer la langue, les mathématiques. J'ai jamais vu qu'on pouvait apprendre autrement. Donc la psychanalyse, c'est un enseignement où il s'agit de déconner pour apprendre. Et donc il faut frotter, il faut avoir des bonnes méthodes, c'est ça que Freud donne, c'est dans la science des rêves, des bonnes méthodes pour apprendre à frotter son désir qu'on retrouve dans le désir de l'autre pour pouvoir lire. Il faut y mettre son désir, ensuite il faut frotter au texte, il faut se frotter au texte avec les mêmes méthodes que Madame Barbara Cassin à la philologie ou les mathématiques. Comment arriver à surmonter grâce à l'écriture ses préjugés? La parole, c'est pour vous conduire au carrefour, à l'endroit où vous pouvez, il n'y a que l'analysant qui peut faire ça, c'est s'apercevoir que les choses qu'il répète, les emmerdements qu'il a, ce dont il se plaint, la demande, tout ça, ça doit avoir quelque chose à faire avec cette idée que, honnêtement, il pourrait reconnaître, c'est que il veut dire quelque chose à l'analyste, il peut dire quelque chose à l'analyste, il peut le dire à d'autres. Il peut se le dire à lui-même, il peut même le chanter dans sa salle de bain ou dans sa voiture, ou en plein champ.
Il sait très bien ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas. Arrivé à se rendre compte que j'allais le dire, je voulais lui dire, et puis je ne lui ai pas dit. Bizarre. Ça, c'est le transfert. Silence. Donc, se dire que ça, cet endroit transférentiel précieux, carrefour, ce que j'appelle le carrefour, on rencontre, c'est à partir de là qu'il faut frotter les silex du texte et de la lecture. C'est-à-dire, pour lire, non seulement Freud dit, il faut trouver le désir dans le rêve pour lire, mais je pousserai la méthode freudienne plus loin pour dire qu'il n'y a de lecture qu'avec le désir. Et il faut retrouver son désir dans le désir de l'autre. C'est pour ça qu'il faut avoir entendu parler d'un texte pour pouvoir le lire. Si ça ne vous dit rien du tout, je ne parle pas des textes qui seraient écrits dans une autre langue, hein, dans votre langue, si ça ne vous dit rien du tout, il faut que vous concassiez le truc pour que ça vous dise quelque chose, pour que vous y mettiez votre désir pour pouvoir commencer. C'est ça la condition pour l'analysant, de pouvoir approcher la tâche analysante. La tâche analysante, c'est ça, c'est apprendre à lire et apprendre de la lecture qu'on a des préjugés et qu'on va arriver même à surmonter ces préjugés. Il n'y a que deux types dans la science qui ont une telle honnêteté intellectuelle, il y en a peut-être quelques autres, mais pour dire de Russell, c'est Frege, et nous, on n'a pas constaté chez Freud, c'est extraordinaire, un type. Et regardez à quel moment il introduit la phase phallique. 1923, dans son enseignement, tout le monde lui tombe dessus, les dames américaines, même Jones qui veut le défendre. Il fait du patinage artistique pour dire finalement que Freud a raison, mais que Freud il dit que les petits garçons naissent avec des chaussons bleus et puis les petites filles des chaussons roses. C'est exactement le contraire de ce que dit Freud, puisqu'il dit hein, les garçons et les filles, première période d'hypienne, primaire, le processus primaire, l'inconscient, l'hétérosexuel infantile, c'est pareil pour les petits garçons et pour les petites filles. C'est quand ils ont été déçus par la castration de la mère que là, ça commence à devenir. Il peut y avoir un début de différence. Et que c'est même. Que c'est pas. Bon. C'est sûr que là, l'anatomie, c'est le destin, ça joue un rôle pour certains sujets. Mais à partir de là, vous avez plusieurs chemins qui conduisent aux formules de la sexuation, et à, du côté homme, du côté femme, et puis du point de vue homo ou du point de vue hétéro. Et l'hétéro, c'est celui qui aime la femme, qui aime les femmes, plutôt, parce que la femme, justement, elle n'existe pas. Donc, se tromper pour apprendre, même bricoler, mais alors le problème, c'est qu'il faut être un peu courageux, ou un peu inventif, ou un peu amusant, ou un peu amusé. Il faut, moi, ce que je trouve, c'est très triste. Donc, même Freud, quand il arrive à avancer dans sa construction et à construire une usine à gaz, ensuite, pof, il écrit des textes géniaux comme l'introduction au narcissisme, 1923, vous voyez, 9 ans de rédaction des 3 essais sur la théorie de la sexualité jusqu'en 22, 9e édition, 22, donc ça fait de 1905 à 22, bon, plus de 10 ans. 9 éditions, à chaque fois il l'a corrigé, il l'a réécrit, il écarte tout ça. On ne peut pas imaginer, si on n'est pas complètement crétin, mais apparemment nous sommes tous complètement crétins, que la psychanalyse soit une sexologie ou que ce soit la même chose que la Bertolt Ellis, Freud, hein, sexualisme, machin, vous voyez, raconter l'histoire de la dame qui aime se faire attacher avec de la ficelle, ou celle qui aime se faire serrer dans ses vêtements pour aller pisser entre les voitures. C'est charmant, c'est passionnant, ça fait le grand œuvre, les bateaux psychanalytiques, mais c'est pas la psychanalyse. Freud, il écarte les 3 essais qu'il faut lire quand même, qu'il faut toujours lire, c'est toujours très précieux de regarder comment il y même de le lire d'une manière différenciée, en voyant les époques, en voyant les différentes versions, il y en a 9. Hein, c'est bien marqué dans les notes. C'est très intéressant de lire la version courte, la première, puis ensuite la deuxième, puis ensuite la troisième. Non, vous n'avez pas le temps de faire ça, vous avez un téléphone portable qui vous appelle, mais il faut quand même essayer de faire perdre du temps à faire des choses comme ça. Et vous verrez qu'en 1923, il écrit un petit texte, 3 pages. Hein, organisation génitale infantile. Et puis il écrit en 25 ce petit texte sur la négation. Magnifique, hein. il entend parler par... Vous vous rendez pas compte, il entend parler par Brentano qu'il y a des types comme Frege, Peirce, Fribourg, qui ont commencé... pour vous rendre compte de ce que c'est pour Freud la découverte que par Brentano, grâce à Brentano, qu'on a inventé une manière d'écrire la négation comme ça. Que Frege a inventé la fonction propositionnelle pour parler du concept comme ça. Ça me fait rire, moi, tous les gens qui lisent signes et dénotations. Hein. Sens. Sens, hein, zin, bon, et puis dénotation. Lacan, il a traduit à l'époque signification, la signification du palus. Tout le monde lit ce texte, mais ce texte, il fait partie d'un groupe de 5 textes. Vous avez fonction et concept, concept et objet, objet et fonction, enfin, c'est quand même. Rendez-vous compte qu'il a mis du temps à arriver à se persuader lui-même que ça, c'était pour écrire le concept. C'était très nouveau pour Frege lui-même. Alors la négation, lisez ses recherches logiques, c'est tout à fait inachevé, c'est quelques pages seulement. Il y a 2 parties à la recherche logique. Mais regardez combien il a du mal à dégager la négation, et que nous, on va à partir de lui, de cette négation que Frege a utilisée pour nous parler de l'inconscient, et bien nous allons pouvoir construire dans la suite des connecteurs, après le « ou », le « et », la négation, nous allons construire un « ou » et un « et ». Le « ou » de l'aliénation, le « vel » de l'aliénation, et le « et » que j'avais appelé le « vel » de la séparation. Et la découverte que j'ai faite, c'est à propos de la séparation. Je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas construire ce connecteur sans ce point de capital. C'est ce que je voudrais vous montrer. Et puis ensuite, il existe X, le penteur existentiel, pour parler, Freud nous parle de l'inconscient, avec la négation, de l'attribution, hein, du principe du plaisir, avec le prédicat, et de l'existence du principe de réalité.